Alors, on poursuit actuellement une série qui s'appelle Les os de la Bible. Les os, ce sont les parties difficiles, et il y a des textes dans l'Écriture, des situations qui sont parfois difficiles à gérer pour nous qui sommes croyants, et des fois, ça peut remettre en question notre compréhension de l'Écriture, de Dieu. On peut être amené même à douter de Dieu, comment dire, du fait que sa parole est sans erreur. Je cherche le mot, il viendra un jour. L'inérance, exactement. Merci, monsieur le théologien. L'inérance des Écritures, le fait que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur, c'est ce qu'on découvre en lisant les textes, mais parfois on tombe sur des os. Et ce matin, on va poursuivre un des os qu'on avait commencé à débloqué la semaine dernière. Vous vous souvenez de cet os? C'était lié à ce texte-là qui dit: si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et c'est pas un texte qui était facile, mais on a vu que ce verset ne remettait pas en cause notre salut par grâce, mais qu'un refus de pardonner, entêté et permanent, eh bien, révélait finalement l'état de notre cœur. Et c'était soit quelqu'un qui n'avait pas mesuré l'ampleur du pardon qu'il avait reçu de Dieu, et quand c'est le cas, eh bien, on a du mal à pardonner, ou bien qu'on n'a jamais rencontré Dieu. Parce qu'au final, un chrétien devrait, à un moment donné, arriver à pardonner. Mais attention, on n'a pas tout dit quand on a dit ça, parce que qu'est-ce qu'on entend par pardonner? Okay? Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, parce que on pourrait vite culpabiliser dans certaines situations, alors qu'on ne parle pas vraiment de pardon. Et vous allez voir que notre vocabulaire français, ou suisse, ou belge, eh bien, est assez limité en fait, parce que on a plusieurs expressions dans la Bible, mais elles sont toujours traduites par pardon. Et alors qu'il y a des nuances dans l'hébreu, il y a des nuances dans le grec, mais nous, on appelle tout ça pardon. Et souvent, on va mélanger les concepts du pardon. Et le pire, c'est de faire un cocktail, de confondre le pardon et la réconciliation. Et nous allons voir que ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, on va aborder cette question. Alors, pardon, c'est celle-là. Doit-on toujours pardonner? Et on a des cas de figure, hein, que vous rencontrez au quotidien, que vous avez déjà rencontrés ou que vous allez rencontrer. Que faire lorsqu'une personne est toxique, manipulatrice? Vous avez déjà rencontré un pervers narcissique? Ouh, ouf, les amis. Vous savez quoi? Ils ne peuvent pas rester dans l'église. C'est pas possible. Pas possible. Est-ce que vous avez déjà rencontré un collègue, voire un frère ou une sœur qui arrive systématiquement en retard? Et donc ça retarde les réunions et ça devient assez dramatique. À l'église, ça nous arrive aussi de rencontrer ce genre de situation, hein? Et on agit d'une certaine manière. Alors, il y a ce qu'on va vivre pendant la semaine et il y a aussi le rapport qu'on doit avoir entre les frères et les sœurs. Et ça change. Parce que s'il y a un domaine important, c'est celui-là, c'est qu'on est réconcilié. Nous sommes réconciliés avec Dieu, on est d'accord. Et donc, on est appelé à vivre en tant que réconciliateur. Et donc, on devrait, dans nos rapports mutuels, vivre cette réconciliation. Et on voit que ce n'est pas toujours facile. Avec les Suisses et les Français, parfois il y a des petites tensions. Hein, je sens, en discutant avec mes voisins, pas du tout dans l'église, hein, mais en tout cas autour de moi, les frontaliers ne sont pas toujours bien vus par les Suisses. Et je peux le comprendre. Moi-même, j'ai du mal avec les Français. Mais on arrive quand même à s'arranger, n'est-ce pas? Mais si vous étiez un chrétien palestinien, et que vous rencontriez pendant le culte un chrétien israélien, avec tout le passif qu'il y a derrière, est-ce que vous allez le saluer comme ça? Viens, mon frère, je t'embrasse. Certains y arrivent comme ça rapidement, d'autres, ça va leur prendre des années, parce qu'il y a un vécu, il y a un passif derrière qui les a bloqués. Et je ne parle pas d'une situation où on aurait subi un abus, par exemple une femme qui aurait subi un abus sexuel par un homme. Il peut arriver que juste la vue des hommes, c'est une aversion profonde qui en découle. Parfois, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'on a oublié, notre cerveau a zappé une circonstance difficile qu'on a vécue dans l'enfance, et ça ressurgit 20, 30, 40 ans plus tard. Ça peut arriver. Mais il ne s'agit pas du fait qu'on n'a pas pardonné ici, mais d'autres situations. Et ce matin, on va regarder un petit peu tout ça, parce que ce n'est pas toujours simple à gérer, le pardon dans l'Église. Est-ce qu'on doit pardonner quelqu'un qui ne se repent pas ou jamais ? On lui dit les choses et il ne change pas. On n'est pas en train de parler ici de votre enfant qui a systématiquement laissé le linge sale au pied du bac à linge sale. Hein. Ça peut arriver, ça. Mais ce n'est pas le même niveau qu'un pervers narcissique ou quelqu'un qui fait un abus. Vous voyez, y a pas, on ne pardonne pas de la même manière et il y a des conséquences qui seront différentes. Et là, c'est très concret. Alors, figurez-vous qu'on a deux textes qui restent une forme qui montre une manifeste une forme de tension. Regardez celui-là. C'est celui-là. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Vous avez vu ici la condition ? Elle est répétée 2 fois. C'est quoi ? S'il se repent, s'il change, hein, s'il change d'attitude, s'il change de comportement. Donc là, il y a vraiment une condition. Je pardonne si la personne se repent. Et vu comme ça rapidement, on pourrait penser que le pardon est conditionnel. Hein ? On prend que ce texte. Ok, le pardon est conditionnel. Si l'autre ne se repent pas, je ne pardonne pas. Il y a certains théologiens qui vont dans cette direction. Et on peut le comprendre parce que le texte, il est assez clair. Mais regardez ce qu'on trouve. C'est la même Bible. Alors, ce n'est pas le même évangéliste, mais ça reste un des apôtres. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, ça fait combien ? Les matheux, là ? 490. 490 fois. Est-ce que Jésus est en train de dire, à la 491e offense, tu t'arrêtes ? Ça sous-entendrait qu'on compte, hein, tous les jours. Bon, ça fait beaucoup à la minute, hein, quand même, à l'heure. Mais voyez, ici, c'est pas ce que dit ce texte. Ce texte nous encourage au contraire à ne pas compter. Mais le pardon, ici, Jésus enseigne qu'il est illimité. Tu comptes pas, tu pardonnes. Et là, il y a confusion, vous ne trouvez pas ? Parce qu'on a deux textes qui sont en opposition ici. Est-ce que vous la voyez, cette tension ? Il n'y a que moi qui la vois ou non, c'est bon, on te fait confiance. Vous savez, cette semaine, j'ai dû consulter quelques ouvrages sur le pardon. Tim Keller, excellent. Buchold, vraiment pas mal. Et MacArthur, excellent aussi. Et ils approchent le pardon sous différents angles. Buchold est plus va plus aller dans le conditionnel. Donc il met l'accent davantage sur Luc et il donne certaines affirmations avec lesquelles je ne suis pas forcément en phase. MacArthur a une autre manière de gérer cette tension-là. Je vais vous l'afficher ici. MacArthur, lui, distingue un pardon judiciaire d'un pardon paternel. Et c'est sa manière à lui de gérer cette tension. Il dit, il y a un pardon qu'on va recevoir de Dieu, qui vient du ciel, un pardon paternel, c'est ce pardon-là qui nous sauve. Okay ? Et puis, il y a un pardon judiciaire. Voilà. Et le pardon paternel, c'est le pardon qu'il y a dans une relation. Voyez ? Et donc, il explique comme ça. Jusqu'ici, j'avais adopté cette manière de regarder le pardon jusqu'à avoir mieux, en fait. Et J'étais perturbé cette semaine parce qu'il y avait plein d'infos. Vous imaginez quand vous lisez trois livres comme ça et qu'ils disent pas tous exactement la même chose. J'ai demandé à un ami qui fait de la relation d'aide, qui est pasteur au Québec, et il m'a envoyé le cours de monsieur, Mathieu Caron. Voilà, Mathieu Caron. Il a formulé un cours et je vous encourage à aller voir cette conférence qui est excellente. Ça s'appelle la théologie du pardon. Il va plus en détail que ce que je vais le faire ce matin, parce que c'est assez technique, mais c'est une formation. Ici, on est dans une prédication, c'est pas le même exercice. Donc, je vais dire en substance la même chose qu'il a dit dans ce contenu, avec mon apport personnel. Ok ? En tout cas, ici, dans l'autre livre, Tim Keller, lui, il considère que le pardon doit toujours être accordé avant d'être ressenti. Il met beaucoup l'accent sur le ressenti, voyez. Et il fait une distinction. C'est pas parce que tu as des sentiments négatifs que tu ne peux pas pardonner, parce que le pardon est un choix. Et là encore, il y a des nuances à apporter, parce que parfois il y a un vrai blocage psychologique. J'en ai discuté avec une spécialiste dans notre église. Par exemple, ça s'appelle le syndrome post-traumatique, le stress post-traumatique. Et donc là, après avoir vécu une violence, on peut avoir des blocages intérieurs profonds. C'est des blessures qu'il faut guérir. Si c'est le cas, alors là, il faut consulter un spécialiste, soit en relation d'aide, soit voir un psychologue pour nous accompagner et arriver à dénouer cette pelote qui s'est formée sous la défense, quelque part. Donc, vous voyez que chacun va mettre l'accent sur un aspect du pardon. Monsieur Caron, lui, eh bien, il arrive à cette conclusion et il dit que tous les pardons ne sont pas égaux. Et il va situer deux niveaux de pardon. Alors nous, on l'appelle pardon, mais on voit que le premier niveau du pardon sera inconditionnel. Et puis, il y a un autre niveau de pardon qui, lui, est conditionnel, mais ce sera plus lié à la réconciliation. D'accord ? Et donc, on voit, il va nommer ces deux niveaux de pardon, mais en s'appuyant sur l'écriture et sur le vocabulaire biblique. Et regardez le tableau qu'il donne. J'ai trouvé ça très éclairant. C'est pour ça que j'ai adopté. Alors, oubliez le côté très technique. Ce que je retiens ici et ce que vous devriez retenir, c'est que il y a plusieurs manières de décrire le pardon dans l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, il y a trois, il y en a plus, mais il y a au moins trois expressions qui décrivent le pardon, et ce sont des choses différentes. Regardez le premier, par exemple, NASA. Rien à voir avec l'agence spatiale. Hein. Ça signifie porter le fardeau sur soi. Hein, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui a un sac à dos, et vous lui dites, ok, donne-le-moi ton sac à dos, je vais le prendre sur moi. Ok, ça c'est le premier, un niveau de pardon. Il y a l'autre, salar, et ça c'est le fait de pas être pointilleux, de gracier les gens. Hein, on regarde pas dans le détail. Allez, ok, c'est bon, je passe là-dessus. Donc ça c'est dans l'ancienne alliance. Vous allez voir qu'on a l'équivalent en grec. Donc là c'est l'hébreu. Et puis on a mon préféré, kafar. Hein, c'est pas l'insecte ici, mais kafar. Eh bien, c'est ce qu'on trouve dans l'expiation, le fait de couvrir la faute. Vous savez, quand il y a les deux anges, les deux séraphins qui sont au-dessus, et le sang va couvrir le couvercle, le mot couvercle, c'est kafar. Donc, c'est couverture. On vient couvrir le péché. On vient couvrir l'offense de l'autre. Okay ? Ça, c'est un niveau de pardon assez élevé parce qu'il est lié à l'expiation dans l'Ancienne Alliance. Et puis, on a dans le Nouveau Testament trois expressions. La première, on va rentrer ici dans le détail parce que c'est celle qui nous intéresse. Et c'est le mot « aphiémi », vous voyez ? Donc ça signifie mettre de côté, laisser filer, ne plus s'en soucier, relâcher l'affaire, ok ? Vous connaissez cette expression « laisse béton ». Hein ? « Laisse béton », c'est du verlan. « Laisse tomber », »,« laisse filer », »,« laisse couler », ok ? C'est ça. Ce que cette expression veut dire, et elle est employée à plusieurs reprises, dont en Luc 23 et Matthieu 6, 12. Et ça, c'est intéressant. On le retrouve dans le Notre Père. C'est le Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le mot là ici, aphiemi, qui est utilisé. Donc laisse, Seigneur, laisse aller, pardonne-moi, laisse aller l'offense. Comme nous, on laisse aller les offenses, voyez. On n'est pas en train de parler de salut ici. On est à un autre niveau. Laisse couler, ok. Prends sur toi un petit peu. Laisse couler. Lâche l'affaire. Non, fais pas une affaire. Vous voyez, c'est plutôt cette idée-là. Et il y a un autre verbe, et ça c'est charizomai. Là, c'est beaucoup plus fort. Et c'est faire grâce. Offrir un cadeau à l'autre, immérité. Et ça, c'est le texte qui est dans le créancier, où Jésus va remettre la dette. C'est le texte qu'on avait lu dans Matthieu 18. On l'a à une autre reprise, où il dit la même chose. Vous savez qu'il y a deux débiteurs, etc. Et il lui remet la dette à un moment donné. Et en fait, c'est ça, c'est ce terme-là qui est utilisé. Imaginez qu'un ami vous emprunte votre perceuse, hein, elle est toute neuve, et puis il la casse. Aphiemi, ici, ce serait « t'inquiète pas, laisse tomber, c'est pas grave ». Ça, c'est ce que vous allez lui dire. « Ok, c'est que du matériel. » Aphiemi, ok. Mais si lui, il vous offre une perceuse encore mieux que celle que vous aviez, toute neuve, là, ce sera charizomai. Vous voyez, il vous couvre d'un don plus grand que ce que vous méritez quelque part. C'est ce terme-là, en fait. Et c'est le terme qu'on utilise dans Éphésiens 4, verset 32. Faites-vous grâce réciproquement, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Vous voyez, on a un modèle et donc on va imiter. C'est ça, on fait un cadeau aux autres, même s'ils ne le méritent pas. Et vous savez quoi? À votre avis, à la croix, lorsque Jésus est au milieu des brigands, qu'il est pendu sur la croix, et qu'il les regarde comme ça, et qu'il leur dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas la couverture ici, ce n'est pas le cadeau qui offre le salut, mais bien aphiemi, c'est-à-dire laisse couler. Seigneur, ne les juge pas tout de suite, ok? Laisse couler, laisse tomber là, pour ce moment-là. Ils ont encore le temps de se repentir, voyez? Là, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas la réconciliation ici. Ces gens-là ne seront jamais sauvés. Pourtant, Jésus leur dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez, il dit à son Père, pardonne-les, mais aphiemi, laisse tomber. Ne les juge pas définitivement. Vous voyez ce que c'est? C'est intéressant quand même. En fait, on le retrouve, ce terme, dans des textes clés, et ça nous aide à comprendre qu'il y a vraiment ces deux niveau du pardon, et que finalement les deux textes que j'ai cités au départ, eh bien, ne parlent pas du même pardon, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on les voit en tension, parce qu'on ne parle pas du même pardon. Il y en a un qui est aphiemi et l'autre qui est charizomai, vous voyez ? Et c'est bien de savoir pourquoi. Concernant le premier pardon, aphiemi, okay, quand on dit laisse couler, celui-là, et écoutez bien, parce que ça va peut-être vous remettre en question, mais celui-là, il faut toujours le faire, ok ? Tout le temps. Là, c'est inconditionnel. On doit toujours mettre de côté. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on excuse le péché ? Absolument pas. Ça veut dire qu'on se délie de l'offense ou de l'offenseur. Quelqu'un nous a fait du mal, si on n'a pas cet acte de pardon, eh bien, on sera complètement lié à lui. Et alors là, mes amis, on va finir esclave, honnêtement. C'est ce que la Bible appelle une idole. Hein. Quand l'autre bouge le petit doigt, ça nous fait réagir. Et donc là, on se délie quelque part, on coupe le lien qu'il y a entre nous et l'offenseur. On laisse couler, vous voyez ? Ok. Par contre, s'il a fait quelque chose de grave, les amis, ça, il y a des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le premier niveau, ce premier niveau-là, il est toujours dû. Ok ? Oula, je vous sens assis dans votre siège, là. C'est un dû. C'est-à-dire que celui-là, c'est dans toutes les circonstances. Même lorsque notre mari a été assassiné. C'est ce qu'a fait Erika Kirk. Vous vous souvenez ? Cette femme, elle a fait ce choix, ce premier niveau de pardon. Mais qu'est-ce qu'elle a fait après ? elle a remis à la justice. Vous voyez ? Elle s'en est remis à celui qui juge justement. Donc deux niveaux ici. Premier, inconditionnel. Deuxième, conditionnel. On rentre maintenant dans ce détail-là. Aphiémi, c'est le texte où Jésus dit qu'on doit pardonner. Donc on aphiémi 7 fois, 70 fois, 70 fois. Donc 490 fois. Ok ? On est d'accord ? C'est illimité ? Donc là, il n'y a pas d'exception en fait. Là, le texte est très clair. C'est toujours un dû. Pourquoi Dieu nous demande ça ? C'est pour qu'on vive de manière libre. Pour qu'on soit libre. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous a fait du mal et qu'on lui en veut, les amis, on n'est plus libre. Et là, l'amertume va commencer à nous ronger. Et elle va gangréner. On va non seulement se pourrir la vie, mais pourrir la vie de notre entourage. Et Dieu ne veut pas ça. Donc c'est ce premier niveau qu'il faut toujours faire. Tu remets ça à Dieu. Tu remets la dette, tu vois ? C'est plus à toi, ça lui appartient maintenant. On remet à Dieu, on met de côté, d'accord ? Pourquoi on doit le faire ? Je donne une illustration. Imaginons qu'avec Mathias, on aille au groupe de maison et qu'on soit tous les deux en voiture. Et puis Mathias, il aime la technologie et pendant la semaine, il a acheté un pistolet laser qui nous permet de mesurer la vitesse des voitures. C'est génial comme outil. Et puis, comme il n'avait rien à faire à côté de moi en voiture, il regarde la voiture de devant et il me regarde, il fait « Franck, il a dépassé de 40 km/h !» Je dis « Quoi ?» Je rétrograde, je double, on se met face au véhicule et on lui dit « Mettez-vous sur le côté ». On passe devant, on sort du véhicule. Puis vous avez vu Mathias, hein ? Quand il arrive, « Ouf, qu'est-ce que j'ai fait ?» S'il vous plaît, papier du véhicule. Vous saviez que vous étiez en infraction ? Vous avez dépassé de 40 km/h, j'ai la preuve. C'est marqué là. Et puis, comme il a du zèle, il avait acheté une paire de menottes. Il les menotte. Et puis ensuite, on leur dit, bah, vous allez passer 48 heures en prison. Ça vous a fait rire, hein ? Pourquoi ? Parce que c'est surréaliste. En fait, ni Mathias, ni moi... Nous sommes policiers, on n'est pas des juges. On n'a pas été mandaté pour ça, on n'a aucune autorité. Et donc, c'est normal que vous en riez, c'est grotesque. Mais c'est exactement ce qu'on fait chaque fois qu'on refuse de pardonner une offense, qu'on refuse de laisser couler. On se place en juge, vous voyez ? On vient avec notre radar, alors que nous, on est bien imparfaits ici. Mais on vient avec notre radar et puis après on va mettre l'artillerie en place. Mais on n'est pas légitime pour ça, vous voyez ? On n'est pas procureur. Dieu, lui, il l'est. Et c'est pour ça que Paul nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ok ? Donc ça, on la remet à Dieu. On laisse l'offense à notre Seigneur. Ici, je vais m'arrêter ici juste sur cette description. Et on va regarder une autre. C'est celle-ci qui me semble vraiment capitale à comprendre. Ne pas confondre pardon et réconciliation. Et finalement, toutes les erreurs, tous les abus, peut-être que vous avez vécu vous-même, viennent de là. D'une mauvaise compréhension de l'un et de l'autre, ou en fait d'une fusion des deux. D'accord ? Le premier niveau de pardon, le pardon du cœur, c'est ce que je viens de décrire maintenant, il est inconditionnel, c'est toujours un dû. Et vous savez qu'on retrouve plein d'exhortations dans le Nouveau Testament, et c'est ce pardon-là, ok ? Résister à la pensée de vengeance, c'est ce qu'on vient de lire. Souhaiter du bien même à celui qui vous a blessé. Luc 6, prier pour lui plutôt que de ressasser contre lui. Confier son jugement à Dieu qui seul voit tout et jugera avec justice. Et ça vient d'une parole de l'apôtre Pierre qui cite Jésus. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus lui-même l'a fait en tant qu'homme. Il a remis toutes les horreurs qu'il a vécues sans ouvrir la bouche parce qu'il s'en remettait à son Seigneur. Vous voyez, ça, c'est un dû, les amis. Ce genre de choses, il remet à Dieu, il laisse tomber, il laisse couler. Ok ? Est-ce que c'est compris ? Est-ce que vous pouvez dire avec moi, c'est un dû, je dois pardonner à ce premier niveau-là, de manière inconditionnelle. Si vous faites comme ça, attention, vous vous engagez, mais vous agissez selon les Écritures. C'est pas facile. Personne n'a dit que ça serait facile. Parce que vous savez, en tant que pasteur, il y a beaucoup de choses qui me reviennent aux oreilles. Des gens agacés. Des responsables qui, lorsqu'ils envoient des courriers, on ne leur répond pas. Une fois, deux fois, trois fois. Puis après, ils m'appellent. Ouais, qu'est-ce que je fais ? Ça fait trois fois que je relance et il n'y a rien. Affiemi. Tu sais, tu n'as pas affaire à des gens parfaits, ce ne sont que des brebis. Et les brebis, si vous en connaissez, c'est pas très joli, hein, de temps en temps. Un troupeau, ce ne sont que des brebis. Et tu l'es aussi, comme moi. Donc, tu laisses couler. Okay ? Et régulièrement, je suis obligé de rappeler ça. Régulièrement. Et c'est normal. Dans une famille, il y a des tensions. On va se disputer. On en est là. Attention, ça passe pour des choses graves ici, hein, mais on en est là. C'est ce niveau-là. On est exhorté à multiples reprises pour le faire. Et il y a ce deuxième niveau de pardon qui est la réconciliation. Et là, elle est toujours conditionnelle. Ok ? C'est toujours condition. Pourquoi ? En fait, quand on parle de réconciliation, c'est jamais je me réconcilie avec moi-même. D'accord ? C'est compliqué à faire. Hein ? Enfin, j'espère que vous êtes réconcilié avec vous-même parce que sinon vous avez un problème. Mais en fait, il y a toujours deux parties. Ça veut dire que vous êtes schizophrène, en gros. Hein. Double personnalité, et vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même. Non, vous êtes une seule entité, donc il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Par contre, si vous avez à vous réconcilier, c'est toujours avec une autre personne. Il y a toujours la nécessité que les deux aillent dans la même direction. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui ne veut pas. Hein. J'ai pris une image ici. Mais une personne qui a les bras croisés, vous pouvez venir lui tendre la main. Si elle a décidé de ne pas vous tendre la main, vous ne pouvez pas la forcer. Ou alors ça sera une fausse réconciliation, vous voyez. Vous allez chercher la main, tiens, mets-la bien dans la mienne. Ben non, je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Ah tiens, Nadia, hein, elle est comme ça. Vous n'êtes pas réconciliés tous les deux ce matin, hein, ils sont tous les deux comme ça. Tendez-vous la main, s'il vous plaît, je veux juste voir un beau geste. Ah, merci. En fait, on a besoin de l'autre pour se réconcilier. Si l'un ne vient pas, ne tend pas la main, on ne pourra jamais réconcilier. Et c'est là où on comprend mieux, en fait, ces textes-là. Est-ce que Jésus vous a forcé à venir au salut ? Est-ce qu'il vous a forcé à l'aimer ? Il a laissé couler, hein. Jusque-là, si vous êtes en vie, hein, les amis, c'est juste parce que Dieu a laissé couler votre péché. Il aurait pu le juger. Mais Jésus, à la croix, il a dit non, laisse, ils ne savent pas ce qu'ils font. Okay ? Et aujourd'hui, ça s'applique pour nous. Hein. Mais Dieu peut claquer des doigts et ça peut s'arrêter demain ou maintenant. S'il veut, il peut le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il l'a laissé couler, mais est-ce qu'il nous a pardonné pour être réconcilié avec lui ? Eh non, parce que là, ça dépend de nous. Si nous, on ne saisit pas la main que Dieu nous tend, il n'y aura jamais de réconciliation avec Dieu. Donc si vous êtes dans la salle ce matin, que vous n'avez jamais saisi le salut que Jésus vous offre par la foi, vous n'êtes pas réconcilié avec lui. S'il y a un frère ou une sœur dans l'église qui vous a fait une crasse, ça peut arriver, que vous lui en voulez, ça c'est pas bien. Ok, pourquoi ? Affiemi. Tu devrais déjà te dissocier de la chose. Ok ? Mais est-ce que ça sous-entend que tu dois te réconcilier avec lui ? Absolument pas. Il y a des conditions pour ça. Et la Bible est très claire. Matthieu, chapitre 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Ok ? S'il ne se repent pas, tu vas avoir d'autres frères. S'il ne se repent toujours pas, tu le dis à l'église. Et s'il ne se repent toujours pas malgré ça, eh bien tu le considères comme un païen, un péager. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communion, vous voyez ? Et donc on vit d'une manière non réconciliée. C'est pour ça qu'il dit « considérez-vous comme un païen ». Parce qu'en tant que chrétien, on est réconcilié et on devrait vivre en harmonie, en communion les uns avec les autres. Donc quand il y a un Israélien avec un Palestinien dans l'église, hein, si vous avez eu des heurts, ça peut arriver jusque-là. En fait, en tant que chrétien, on devrait, si les deux font leur part, arriver à se réconcilier. Mais si l'un refuse, alors tu n'as pas à te réconcilier. Ça a conduit Mathieu Caron à dire « L'Écriture ne nous commande nulle part de réconcilier toutes nos relations comme elle nous commande de pardonner. » On est appelé à pardonner, mais pas forcément à être réconcilié avec tout le monde. On a ce texte qu'on trouve ici dans Romains chapitre 12. Hein, Paul, il encourage les chrétiens de Rome à vivre en paix avec tout le monde. Mais il ajoute une petite phrase. Hein, vous vous souvenez de cette phrase ? Voilà, dans la mesure où cela dépend de vous. Si c'est possible, si c'est pas possible, c'est pas grave. Ben non, si, c'est grave, mais ben voilà, ça dépend pas de toi. T'as fait ta part, toi t'as tendu la main. Si l'autre veut pas tendre la sienne, ben tu seras pas en paix, on n'est pas réconciliés, vous voyez. Donc là, ça dépend plus de nous. Mais l'Écriture ne nous impose pas une réconciliation, vous voyez. Elle nous impose le pardon, mais pas forcément la réconciliation, ça va dépendre du contexte. Et là, ça dépend si la personne se repent. Est-ce que c'est plus éclairant maintenant ? Ok, allez, je termine. Je vais conclure. J'ai 7 minutes pour faire 40. Waouh ! C'est un record absolu de ma part. Est-ce qu'on doit toujours pardonner ? Vous savez, il y a Mathieu Caron qui raconte une histoire qu'il a vécue. Il y a un homme qui a été emprisonné, qui a purgé sa peine pour pédophilie. Okay ? Puis il est retourné à l'église. Et puis, lui, il avait une compréhension du pardon égale réconciliation. Dans sa tête, comme il avait purgé sa peine, d'accord, que lui avait demandé pardon, eh bien, il voulait aller faire un gros câlin à ses victimes et à la famille de la victime. Et là, Mathieu Caron dit, mais c'est une erreur fatale. Parce que la famille, certes, elle doit pardonner, ça va prendre peut-être des années, mais de là à faire de toi un gros câlin et un copain, je pense qu'il y a quelques étapes qui vont se passer, peut-être quelques années-lumière même. Vous voyez, il ne faut pas confondre les deux. Et c'est là le problème, c'est quand on mélange les deux, les amis, on fait un cocktail. Donc, si vous avez fait des choses difficiles et que l'autre vous en veut, laissez-lui gérer, hein, le afiemi, elle doit arriver à ce pardon-là. Par contre, la réconciliation, il va falloir la travailler. Ça va prendre du temps. Et dans l'Église, on devrait arriver à retravailler ensemble. Mais vous avez un exemple entre Paul et Barnabas. En tout cas, pendant un temps, ils ont dû se séparer. Vous voyez, c'était trop fort. Là, il y avait l'adrénaline qui était montée, la testostérone probablement, c'est deux gars. Hein. Et donc, à un moment donné, on se sépare, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'en sont voulu toute leur vie, parce qu'on voit que Paul va dire de bonnes choses de Barnabas, et inversement. Ils se respectaient et ils vont même travailler ensemble. Donc, vous voyez que c'est possible, mais parfois ça prend du temps. Ça prend un clash, une séparation, puis après, plus tard, le temps fait qu'on arrive à pardonner. Alors, on va citer plusieurs cas. Le premier, les offenses banales. Hein, comment on peut appliquer le texte ce matin ? Eh bien, imaginons que lundi matin, quelqu'un vous double sans clignotant. Ou bien, un collègue vous fait une remarque un peu sèche en réunion ou lorsque vous arrivez. Ou elle ne vous fait pas un compliment sur votre tenue vestimentaire. Et vous êtes sensible à ça. Ou bien votre conjoint oublie une énième fois de baisser la lunette des toilettes. Ça, ça sent le vécu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là ? Les choses banales, on couvre. On n'en fait pas une affaire, c'est ce que dit Pierre, 1 Pierre 4, 8. L'amour couvre une multitude de péchés. D'accord ? La plupart du temps, on en est là. 95% des offenses qu'on a, elles sont de ce type-là. Et c'est normal, on est dans un monde pécheur, on est égoïste, et puis on peut avoir des perceptions différentes qui ne sont même pas liées au péché, simplement parce qu'on est différent. Okay ? Pour moi, c'est logique de laisser la lunette ouverte quand moi je fais pipi debout. Vous voyez, c'est logique, j'ai pas besoin de relever tout le temps. Pour elle, c'est l'inverse. Vous voyez, on a chacun notre logique, en fait. Alors, à un moment donné, il faut s'accorder, hein, en se disant, OK, c'est quoi la règle? Et on essaye de l'appliquer. Parce que sinon, on s'entendra jamais. D'accord? Puis, je parle de la lunette des WC ce matin au culte, c'est intéressant. J'aurais jamais cru y arriver. Deuxième, j'arrive pas à faire avancer, je sais pas, ça bloque. Pour les offenses plus sérieuses, mets de côté, tu peux avancer s'il te plaît ? Mets de côté et avance et confronte, pardon, en espérant la réconciliation. Là, c'est pour des gens qui vont vous mentir sciemment, vous le découvrez, ou bien qui vont vous calomnier, vous l'apprenez. Ça m'est arrivé, j'appelle une personne, et puis cette personne est un peu âgée, elle n'a pas compris qu'elle avait un téléphone à clapet, et puis pour elle, on ferme le clapet et c'est raccroché. Mais non, ça marche pas comme ça. Si vous avez un téléphone à clapet, je vous le dis, hein, les vieux Nokia là qui sont encore sur le marché, il faut éteindre avant. Parce que si on entend la personne qui croit avoir accroché parler sur vous, après c'est ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à un proche, eh bien les amis, ça fait pas plaisir. Dans ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on confronte, d'accord ? Soit on laisse couler. Bon, laisser couler, ça c'est clair. On a dit, on laisse couler. Mais parfois, ça va envenimer une situation qui va être difficile à gérer. Donc, on ne va même pas confronter, d'accord ? Donc là, j'ai dit, ça dépend encore, vous voyez, il y a des petites nuances. Mais sinon, si on sait que c'est un frère, par exemple, ou une sœur, là, il va falloir aller confronter. Et là aussi, j'ai déjà fait. C'est pas agréable, hein. Et je déteste faire ça, mais c'est nécessaire. Par amour, je me dois de le faire. Et ben, parfois, ça nous amène à aller jusqu'à Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. Hein, on commence seul, puis après, ben, si on voit qu'il n'a pas changé, ben, on va un petit peu plus loin. Alors là, j'ai cité ce genre de cas, mais c'est des gens qui vont se mettre dans une colère noire, qui maîtrisent plus du tout leurs paroles ou leurs gestes, des gens qui vont avoir des comportements excessifs, vous voyez. Là, il faut aller confronter parce que vous allez aider la personne. Et le troisième cas de figure, et c'est le dernier, et là j'ai terminé, eh bien, ce sont les choses qui sont graves, d'accord. Troisième, si tu peux mettre le troisième, pour les offenses graves, eh bien, tu fais le même principe, tu mets de côté, tu confrontes, si bien sûr, c'est faisable, et tu vas protéger les autres. C'est-à-dire que tu as toujours les mêmes étapes. La première, c'est qu'on doit pardonner. Hein. Commencez comme ça, s'il vous plaît. Mettez de côté. Okay. Détache-toi, s'il te plaît. Là, j'entends, ça sort en gerbe. Détends-toi, ok. Mets de côté. Maintenant, on va adresser la question quand même. Là, il y a eu quelque chose qui a été fait, et là, c'est très grave. Donc, on va confronter la personne, et si c'est un fait comme un viol, de l'inceste, ou un abus particulier, une escroquerie même, des choses qui sont graves, on ne va pas laisser cette personne tranquille parce qu'elle est dangereuse pour la société. Okay ? Donc là, on va la dénoncer. Ou, ce que je préfère faire, c'est l'encourager à elle-même se dénoncer, mais on voit que ce n'est pas toujours possible. Mais si c'est le cas, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui est venu confesser un visionnage d'images à caractère pédophile. C'est grave. J'en ai pas parlé à l'église. Par contre, je lui ai dit, écoute, tu vas aller au poste de police et tu vas aller te dénoncer toi-même. C'est ce qu'il a fait. Alors, ça lui a coûté cher. Hein. Ça lui a coûté cher, sa réputation, entre autres. Mais pour moi, c'était trop grave. Il fallait protéger les autres. Donc vous voyez, il y a vraiment différents. On pourrait citer des dizaines de cas comme ça, je n'ai pas le temps ce matin, mais j'ai tenu mon timing.